Concertina.
Bienvenue à cet atelier. Donc mauvais genre, les identités enfermées, et d'avoir quand même accepté de venir passer ce temps avec nous à moitié sous la pluie et dans le froid et pas ailleurs où il fait chaud. Donc merci beaucoup pour ça. Moi je vais me charger de la modération de cet entretien, on va dire, qui va donc se passer entre Quentin Marcarian, que je vais présenter, et Ludine Kalia. Excuse-moi, je prononce mal ton prénom. Ton nom, ça commence mal. Voilà, et pour vous dire, cet atelier dans lequel on va parler notamment transidentité en prison est un atelier qui est proposé par Prison Insider, dont je fais partie. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Prison Insider, c'est une plateforme d'information sur les conditions de détention. On produit de l'information et la diffuse sur notre site internet, qui est en trois langues, en anglais, en français et en espagnol, et pour le coup dans le monde, et pas uniquement à la situation française ou à la situation d'un pays. On produit plusieurs contenus, voilà, on pourra éventuellement en reparler. Et j'ai oublié de le faire, mais j'irai poser des petits rapports d'activité et autres papiers sur Prison Insider pour que vous puissiez un petit peu avoir ces documents-là, si nécessaire. Voilà, assez parlé de ça. Maintenant, si on rentre un peu plus dans l'atelier. Donc, comme je le disais, pour vous présenter, donc, Quentin est doctorant au département de droit public de l'Université de Genève et au centre de recherche en droit pénal de l'Université libre de Bruxelles. Tu fais une thèse justement sur le sujet, plus spécifiquement sur l'affectation des personnes trans dans les prisons françaises et dans les prisons suisses au regard de la règle de séparation des sexes. Et tes recherches se situent plus, on va dire généralement, à l'intersection du droit pénitentiaire et des droits humains. Voilà, puisque ça ne suffisait pas, tu es également co-responsable de la Law Clinic, si je dis c'est ça, sur les droits des personnes vulnérables de l'Université de Genève. Et tu milites au sein de diverses structures, associations de défense des droits humains et des personnes privées de liberté aussi, plus spécifiquement. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou, Parfait. Et toi, Ludine, tu es aussi doctorante en sociologie à l'Université de Lille cette fois. Et tu travailles aussi sur la question puisque tu réalises ta thèse sur les personnes trans privées de liberté en France et en Colombie notamment. Et tu questionnes l'enfermement carcéral dans un système de genre binaire. Et tu fais aussi partie de différents collectifs LGBTQ en Colombie. Et voilà. Ce qui était intéressant avec cet atelier, c'est de voir un petit peu aussi différentes perspectives, parce que là, on l'a entendu, vous travaillez tous les deux sur des pays différents aussi, la France, la Suisse, la Colombie. Nous aussi, à Prison Insider, on a aussi étudié un petit peu cette question dans différents pays, donc on pourra apporter cet éclairage international. Et l'idée, c'est d'évoquer, puisqu'on est ici pour parler de silence, la question du silence autour de la situation des personnes trans, du fait que leur existence est souvent silenciée en détention encore aujourd'hui. Par exemple, on va bien sûr rentrer davantage en profondeur dans ce sujet, mais alors que les normes internationales disent clairement le contraire, les femmes trans continuent d'être, notamment en France, mais c'est aussi le cas en Suisse et dans bien d'autres pays, d'être détenues très souvent dans des prisons pour hommes. Dans ce cas-là, elles sont très souvent isolées du reste de la population carcérale, donc seules, donc aussi réduites au silence. Ou alors, elles passent toutes leurs peines dans leur cellule, confinées, on va dire, et repliées sur elles-mêmes, ou regroupées parfois dans un quartier dédié. On pourra y revenir. La question du silence, c'est aussi sur cette question l'absence, on va dire, de statistiques, l'absence d'informations, l'absence de données, savoir combien de personnes sont concernées dans les différents pays par cette situation, combien de personnes se retrouvent dans des quartiers d'isolement et comment elles vivent cette situation aussi. Voilà, on a très peu d'informations. En France, simplement pour le souligner, la Contrôleur Général des lieux de privation de liberté, qui est donc un mécanisme qui vient dans les différents on va dire établissements de privation de liberté, donc autant les prisons que aussi par exemple les hôpitaux psychiatriques, etc., a fait un rapport qui est sorti très récemment, c'était il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, en juillet, et qui a notamment mis en lumière en France les questions qui se posent sur le manque d'informations et tout ce qui peut finalement concerner les conditions de détention des personnes trans. Mais c'est un petit peu la seule chose qu'on a vraiment, et dans plein de pays, il n'y a pas encore ce type de données, ce type d'état des lieux, on va dire, là-dessus. Peut-être, voilà, avant de poser d'autres questions, vous pouvez peut-être commencer voilà, éventuellement par parler de ce problème de manque d'information et éventuellement des conséquences aussi qui découlent du fait qu'on n'ait pas de données justement sur qui est concerné, où est-ce que les personnes vont, dans quel quartier elles sont affectées, etc. Librement.
Oui, peut-être déjà en termes de statistiques, absence totale de statistiques de la part des autorités, si ce n'est que lorsque des députés ou parlementaires ont posé des questions, par exemple au gouvernement français il y a quelques années, les autorités ont dit que ça représentait un nombre assez infime de personnes, je crois entre 20 et 30 par année, mais à nouveau sans préciser forcément comment était réalisée cette comptabilité de personnes. Donc j'imagine souvent en posant la question aux administrations pénitentiaires locales et du coup à travers leur perception de ce qu'on entend par une personne transgenre ou non. Et en Suisse, on a aussi un cadre un peu similaire. On avait par exemple une députée qui avait posé un postulat il y a quelques années au niveau fédéral pour demander qu'une recherche un peu à grande échelle en Suisse soit réalisée sur les conditions d'incarcération des personnes transgenres en Suisse, qui a été refusée parce qu'à nouveau ça concernait un nombre infime de personnes et là on n'a même pas eu un chiffre précis, on a juste eu notre conseil fédéral qui nous a dit que ça représentait, enfin que les populations LGBTIQ, donc les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, étaient vraiment très minimes et que ça justifiait pas de faire des recherches particulières là-dessus aussi, parce qu'il sous-entendait qu'il y avait une absence de violation des droits humains à leur égard dans les prisons. Donc c'est souvent justifié de il n'y a pas assez de personnes et elles sont traitées de manière individuelle, entre guillemets, donc il n'y a pas besoin d'envisager une prise en charge qui serait au-delà de ceci.
Bon, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mis à part le fait de la difficulté d'accéder aux témoignages et aux personnes concernées, puisqu'en fait, comme c'est effectivement traité au cas par cas, on sait qu'il existe certains quartiers spécifiques ou des endroits dans des établissements particuliers. Mais en fait, la veille est souvent faite par les associations, on va dire, qui font remonter des cas et qui permettent de mettre en évidence que certains établissements, plus que d'autres, font un travail sur la situation. Mais en réalité, c'est difficile d'en faire un état des lieux et d'aller toquer directement à la porte des établissements pour savoir comment chacun gère la situation.
Et peut-être pour revenir sur la question justement de la parole des personnes, pour cet atelier, je ne l'ai pas dit en introduction et ça vaut le coup quand même de le dire, l'objectif c'était que justement quelqu'un puisse parler ou quelqu'une puisse parler vraiment de sa situation, dire comment elle a vécu sa situation de détention, son affectation, etc. Ça n'a pas été possible, mais simplement pour d'autres raisons, parce que initialement, je pense que vous l'aviez peut-être vu dans d'anciens programmes, dans d'autres versions. Normalement, on devait avoir aujourd'hui une personne qui s'appelle donc Chloé Rosemont-Villain, qui a vécu en détention en tant que personne trans et qui justement aurait aimé pouvoir discuter avec vous, échanger avec vous sur cette question aujourd'hui. Bon, pour des raisons professionnelles, ça n'a pas été possible. Elle ne pouvait pas se rendre ici aujourd'hui. Donc, il n'y a pas la parole directement des personnes concernées, on va dire, au sein de cet atelier. Voilà, pour aussi pallier à ça, Ludine, toi, tu as ramené quand même des bouts de témoignages. Peut-être que tu pourras en parler un peu plus, mais voilà, qui permettent de montrer aussi un peu la parole vécue et l'expérience vécue des personnes et pas seulement, on va dire, la partie recherche de tout ça.
Juste une petite chose qui me semble importante de signaler, c'est que pour ma part, je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi dans ta recherche, moi je parle beaucoup de l'expérience des femmes trans, parce qu'en fait en réalité si on reparle du silence et de l'invisibilisation, j'ai réalisé mon terrain et ma recherche auprès de femmes trans, on a beaucoup plus de données et d'accessibilité par rapport à ces situations-là. Les parcours de vie pour des femmes trans ou pour des hommes trans sont différents et la problématique pour l'administration pénitentiaire aussi. Et donc du coup, bon, voilà, c'est un bémol important à apporter sur le sujet.
Et voilà, et peut-être qu'on peut commencer par parler éventuellement de l'affectation, justement, comment ça se passe. Voilà, on est une personne trans, on est arrêté, puis placé en détention, provisoire ou pas. Voilà, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous avez pu observer de vos différentes expériences de recherche?
Oui, alors peut-être pour définir juste au début, quand on parle de personnes transgenres, ici on parle de personnes dont l'identité de genre ne correspond pas forcément au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Dans nos deux pays, en tout cas en France, enfin pardon, sans prendre la Colombie parce que je ne sais pas trop, mais en tout cas en France et en Suisse, pour changer son état civil, par exemple, il n'y a plus besoin de procéder à une réassignation de genre, donc une modification de ses organes génitaux. Donc c'est possible d'être plus en adéquation avec le corps de naissance, entre guillemets, et l'identité qui est inscrite sur les papiers d'identité. Et c'est important à savoir parce que la question de l'affectation peut être réalisée sur cette base. Et en gros, en prison, comme vous le savez probablement, la règle un petit peu qui est appliquée depuis le droit médiéval pour la France, en tout cas, c'est la règle de séparation des sexes. C'est l'une des premières règles qu'on retrouve dans l'espace carcéral, de diviser hommes et femmes. La justification évolue beaucoup selon les périodes, en tout cas. Il y a certaines fois, c'est avancé par la science pénitentiaire comme un objectif de protection des femmes détenues pour éviter des grossesses, mais aussi pour éviter les violences sexuelles. Au XIXe siècle, on trouve d'autres arguments aussi qui vont plutôt vers le fait qu'il faut punir davantage les hommes qui sont incarcérés et que le fait que les femmes soient réunies avec les hommes détenus, ça ne fonctionne pas dans le but de l'amendement pénal des hommes et qu'il faut infliger une punition supplémentaire et que le fait qu'ils se retrouvent avec des femmes, ça ne correspond pas à cet objectif parce qu'on considère à cette période que toutes les femmes sont des travailleuses du sexe infâmes et qui, en plus de ça, tente sans arrêt de communiquer avec les hommes détenus et que c'est elles qui vont essayer de prendre tous les biais pour établir des communications avec les autres hommes. Et cette règle, elle perdure encore aujourd'hui. Elle est inscrite dans le code pénitentiaire français. Elle n'existe plus en Suisse. Par contre, depuis 2007 ou 2008, je suis désolé, j'ai oublié la date exacte, parce qu'on a considéré, du coup, dans ce pays-là, où on a des administrations pénitentiaires locales en fonction des cantons, du coup, on a 25 administrations pénitentiaires différentes et un nombre d'établissements quand même assez important, 89 pour un pays de peu d'habitants quand même. On a considéré que cette règle, on ne voulait plus l'appliquer parce que au niveau de l'organisation et des coûts, c'était trop compliqué à organiser. Donc on a deux établissements pour femmes en Suisse, le même nombre en France par ailleurs. Et après, elles sont souvent placées au sein de quartiers dans des grands établissements pour hommes. Et c'est aussi ce qu'on retrouve en France. Donc voilà, ça c'est un petit peu la disposition du parc pénitentiaire tel qu'on l'a aujourd'hui et du coup l'affectation des personnes transgenres est réalisée dans ce cadre légal et puis spatial si je puis dire. Et cette question de l'affectation des personnes trans, elle a commencé à poser des questions sur qu'est-ce qu'on entendait par cette règle de séparation des sexes et qu'est-ce qu'on définissait par sexe, parce que c'était une sorte de non-question jusqu'à longtemps. On ne savait pas si ça faisait référence à l'état civil, si ça faisait référence aux organes génitaux ou à autres éléments, à l'autodétermination, par exemple, le fait de s'identifier selon un genre ou un autre. Et du coup, ça n'a pas été défini à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans les deux pays, c'est que dans chaque établissement, dans chaque région, en fonction de chaque profil, ce sera une affectation qui est complètement différente. Il n'y a pas de règle juridique précise sur qui on affecte, comment et où. On a seulement, par exemple, en France, une sorte de reconnaissance de l'identité de genre au sein du code pénitentiaire qui a été ajoutée comme une espèce de motif très symbolique de non-discrimination que doit poursuivre l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire, au même titre que le handicap, par exemple, ne pas discriminer les personnes incarcérées sur la base de l'identité de genre. Mais ça ne vient pas définir pour autant l'affectation carcérale et toutes les conditions de détention qui vont en découler. Et j'en profite aussi pour dire que c'est une question assez importante parce que bien souvent l'affectation dans un établissement, dans un quartier ou en cellule va aussi avoir un impact important sur toute la suite de l'incarcération. Et je suis désolé parce que peut-être je suis trop long, mais oui, on a du coup certains établissements pénitentiaires, enfin certains directeurs ou directrices d'établissements qui vont davantage se baser sur les organes génitaux dans le cadre, lorsqu'ils vont être découverts lors de la fouille d'entrée dans l'établissement. Peu importe l'état civil par ailleurs, donc on peut avoir des personnes transgenres qui ont obtenu des modifications de leur état civil, mais qui ont conservé leurs organes génitaux de naissance et qui vont être affectées, bien qu'elles se reconnaissent comme femmes et que le droit les reconnaisse comme femmes. S'il y a un pénis au milieu, on va les placer chez les hommes. La décision, elle peut être prise tant par les juges qui vont affecter dans un établissement, mais parfois qui vont s'en défausser aussi en affectant dans un établissement qui réunit hommes et femmes pour laisser à la direction de l'administration pénitentiaire, à la direction d'un établissement, ce problème à gérer, entre guillemets. Et dans d'autres établissements, on va avoir une affectation qui va être réalisée sur la base de l'état civil, peu importe les organes génitaux. Et dans d'autres, beaucoup plus marginales, on a des directeurs et des directrices d'établissements qui, face à la lacune juridique, vont plutôt prendre en considération l'autodétermination de la personne, et ceci peu importe l'état civil ou les organes génitaux. Donc il n'y a pas de sécurité, entre guillemets, juridique, si vous êtes placé en détention en tant que personne transgenre, de savoir dans quel lieu vous allez être affecté. Et la différence qu'on a en Suisse par rapport à la France, et je vais laisser la parole à Ludine là-dessus, c'est qu'il y a des quartiers spécifiques en France où sont parfois réunis un certain nombre de personnes trans, et en particulier des femmes trans.
Ok, donc sur la question des quartiers spécifiques, malgré tout, on peut dire que ça ne garantit pas le fait que les personnes qui s'autodéterminent comme femmes soient affectées comme femmes trans dans les quartiers spécifiques. Par exemple, à Fleury-Mérogis, il est arrivé que certaines personnes trans arrivent et soient affectées au quartier réservé aux homosexuels. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a toujours un questionnement et une mise en relation de la sexualité et le genre. Et au final, il y a une difficulté au moment du passage au greffe, qui est le moment où on définit où la personne va être affectée. Selon la sensibilité de l'agent ou de l'agente qui sera présent sur le moment, à poser les bonnes questions ou à émettre un avis en fonction de stéréotypes de genre. Donc, par exemple, une détenue me racontait comment elle a été affectée la première fois dans le quartier donc réservé aux hommes gays. Donc ça, c'était sa première incarcération. Elle s'est rendue compte qu'il existait dans l'aile, au même étage, un quartier spécifique réservé aux femmes trans. Et quand elle a été arrêtée la seconde fois, puisqu'elle savait qu'elle allait être arrêtée, elle a mis sa perruque, s'est mis des faux ongles et était sûre de pouvoir accéder à ce quartier spécifique aux femmes trans afin de pouvoir être avec les personnes avec qui elle se considérait en adéquation. Et par ailleurs, c'est compliqué puisque les conditions dans ces deux, alors que c'est vraiment le même bâtiment et le même étage, les conditions de vie au quotidien sont différentes. Et par ailleurs, une autre personne a été affectée à ce même quartier et n'avait jamais eu de socialisation avec d'autres personnes trans. Donc certaines personnes ont identifié qu'elle était trans. Mais par exemple, le passage d'un quartier à un autre était très difficile parce qu'il y avait une discussion entre à la fois la direction du bâtiment et l'unité sanitaire, puisqu'en fait, une fois que l'affectation avait été faite par le greffe dans un quartier spécifique, pour pouvoir considérer cette personne comme une femme trans, il fallait que ce soit l'unité sanitaire qui la déclare comme une femme trans. Et donc là, on voyait une dimension pathologisante de qu'est-ce que c'est être une personne trans. C'est l'unité sanitaire qui doit donner une réponse par rapport à cette question-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand le cas a été signalé, on a dit il y a un problème avec cette affectation, le premier réflexe qu'a eu le directeur d'établissement, c'est on va regarder au moment de la fouille, au moment du greffe, quelles étaient les affaires qu'elle avait avec elle. Et on nous dit ah oui, vous avez raison, effectivement, elle avait une perruque, donc ça doit bien être une femme trans. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter comment l'affectation se fait non seulement à partir des organes génitaux, mais aussi à partir de comment on définit une identité. Donc,
Et peut-être pour ajouter par rapport à ça, c'est par exemple pour moi ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est le fait que le milieu pénitentiaire procède à une sorte de seconde évaluation de qu'est-ce qu'on entend par homme et femme, sachant qu'on a déjà un cadre juridique à l'état civil qui vient définir ça et qu'on a une autorité publique qui rajoute une seconde évaluation sur la base de critères qui, en plus de ça, ne sont pas forcément ceux qu'on utilise en droit et qui est par ailleurs une violation à l'identité de genre qu'il est contenu dans le droit au respect de la vie privée. Et une autre chose par rapport à l'affectation, c'est que bien souvent, en raison des craintes qu'il peut y avoir sur des persécutions, quand on est mal placé, ou même quand on est bien placé par ailleurs, parce que parfois on a certains agents et directeurs d'établissements pénitentiaires qui sont un peu sensibles au cadre juridique et qui vont quand même accepter de placer une femme trans, par exemple avec des organes génitaux masculins, dans un quartier pour femmes, vont la placer cependant à l'isolement seule ou dans des quartiers d'isolement ou à l'isolement en cellule, où on va avoir des personnes qui vont passer parfois, moi en tout cas dans certaines personnes que j'ai pu rencontrer, 3 à 6 mois, mais ça peut aller au-delà ou ça peut être moins long, dans un régime qui peut être considéré comme extrêmement punitif et qui va aussi avoir des conséquences sur le futur, puisque quand les juges vont définir si quelqu'un peut obtenir une libération conditionnelle ou des aménagements de peine ou ce genre de choses, le fait qu'une personne ait été placée à l'isolement ou à un statut de punition et n'a pas pu travailler ou effectuer un certain nombre d'activités culturelles ou autres, ou activités, ça s'est pris en compte aussi dans cette évaluation-là. Donc, en plus de passer des conditions de détention qui sont bien souvent plus mauvaises, elles peuvent rester aussi, en tout cas pour les femmes trans, beaucoup plus de temps en prison pour des peines qui sont équivalentes à d'autres personnes détenues.
Ce qui a aussi, je pense, vous pourrez compléter là-dessus, mais aussi un impact, alors oui, sur ce point-là, mais aussi sur la santé mentale, j'imagine, des personnes. Je ne sais pas si vous aviez des choses là-dessus ou que vous aviez pu observer sur ce que l'isolement produit ou sur ce que la marginalisation produit.
Évidemment, ça, c'est une des questions qui revient régulièrement et je pense que c'est une des revendications même des femmes trans incarcérées avec qui j'ai partagé pendant... En fait, aussi, j'ai beaucoup travaillé à travers la parole collective et réalisé des ateliers. Et donc, c'est à travers des ateliers sur leurs conditions de détention qu'on a commencé à établir un dialogue. Et le premier sujet qui vient sur le tapis, c'est vraiment le fait d'être dans un quartier d'isolement alors qu'elles n'ont rien fait de plus que les autres détenus. Mais ça a des conséquences évidentes, même physiques, psychologiques, physiques, psychiatriques. Par exemple, elles n'ont à Fleury-Mérogis, elles n'ont pas accès à la promenade extérieure. Donc en fait, pendant tout le temps de leur incarcération, sauf si elles ont besoin de sortir pour un procès, un jugement, une démarche spécifique, elles ne reçoivent pas le soleil directement, elles ne foulent pas la terre. Enfin, c'est vraiment des mots qui sont apparus régulièrement, c'est de dire en fait on n'a aucun contact avec le monde extérieur et pourtant on n'a rien fait de plus que les autres, on n'a pas accès au travail, on a accès à certaines activités mais en fait c'est des activités qui sont toujours spécifiques pour nous, donc en fait on vit dans un ghetto trans, donc à la fois pour elle il y a des dimensions positives de se retrouver dans cette non-mixité, dans le partage et dans la solidarité que ça permet pour résister en fait vis-à-vis du système, mais malgré tout en fait c'est la première chose qu'elle met en évidence, on se sent puni d'être trans en fait.
On peut en parler aussi après, mais il y a la question de l'affectation, puis il y a aussi toutes celles qui vont en découler en fonction des règles de genre qui sont établies au sein du monde carcéral, notamment la question de la fouille et quel est le genre de la personne qui doit la réaliser et pour qui, la question de l'obtention aussi des traitements en vue de la transition, que ce soit médicaux ou autres, ou chirurgicales, et qui peuvent être aussi, en tout cas dans certaines prisons que moi j'ai vues en Suisse, mais aussi en France, être interdit ou retardé, du coup sans aucune base hein, par ailleurs. Et dans ce sens-là, moi, je trouve qu'on parle beaucoup aussi de toute la question des thérapies de conversion aujourd'hui, en parlant des traitements médicamenteux ou spirituels qui vont être faits par des médecins un peu fous ou des cultes religieux sur des personnes gays ou trans pour les ramener à des identités hétérosexuelles ou cisgenres. Mais je considère tout à fait qu'on pourrait aussi voir la prison comme un lieu de thérapie de conversion dès le moment où on considère qu'on va définir que cette personne-là soit n'est pas une femme, pas un homme, et du coup est définie selon certains types, qu'on va lui refuser de se reconnaître dans le genre avec lequel elle s'autodétermine ou qui lui est reconnu par le droit, simplement. Et je trouve qu'on pourrait avoir certains avocats et avocates qui pourraient tenter des procès, notamment sur cette base, en tout cas en Suisse, c'est reconnu dans un canton, et en France, je ne sais pas si c'est reconnu légalement l'interdiction des thérapies de conversion aussi. Après, ce qui est difficile à prouver juridiquement, c'est toujours la question de l'intention, et c'est là où ça pourrait être peut-être plus compliqué avec les autorités pénitentiaires.
Je sais pas, je connais pas vraiment le cadre légal, mais pour le coup, parler d'expériences vécues et d'expériences rencontrées, effectivement, c'est une des dimensions importantes. C'est aussi voir comment le système binaire est imposé par l'administration pénitentiaire et devient un cadre de référence auquel elles sont confrontées en permanence, puisqu'elles doivent en permanence réitérer, rappeler leur situation spécifique par rapport aux autres détenus, desquels elles sont malgré tout séparées. Donc, et effectivement, ce rôle de thérapie de conversion, alors je ne l'avais pas du tout pensé sous ce jour-là, mais c'est aussi des situations rencontrées de personnes qui n'ont pas forcément eu des socialisations avec d'autres personnes trans aussi, et qui ont des stéréotypes de qu'est-ce que c'est une personne trans. Moi, je ne suis pas une personne trans, je suis une femme. Donc, je ne veux pas partager avec ces autres personnes parce qu'il y a tous les stéréotypes qu'on vit au dehors de l'hypersexualisation, le travail du sexe. Et donc, en fait, l'administration vient à certains moments aussi appuyer ces divisions. Et j'ai effectivement rencontré des personnes qui disaient « Puisque je ne peux pas être une femme dans ce contexte-là, je préfère être un homme et je retourne en arrière sur mon processus de transition. » Donc oui, quelque part, il y a ce jeu-là, en fait, de « Est-ce que si on fait pression, les personnes cèdent quelque part sur leur identité. »
Et c'est très intéressant parce que justement, vous parliez tantôt du fait que ça arrive quand même très fréquemment que des femmes trans justement puissent être incarcérées dans des quartiers hommes, parfois voilà, isolées, etc. Mais tout de même, ce qui va avec, j'imagine, et c'est une question ouverte, mais aussi des produits de cantine différents qui est forcément pas pensé pour des femmes, mais pensé pour des hommes, en tout cas sur le papier. Voilà, comment ça, est-ce que ça se traduit justement, tu parlais comme de thérapie de conversion, ça aussi, ça fait du sens. Je vois, pas de maquillage, pas de certains vêtements masculins.
Je pense que Ludine peut en parler pour Fleury-Mérogis. Moi, j'ai juste vu, par exemple, le quartier pour personnes vulnérables, entre guillemets, de la prison de Lille Los
Sequedin.
Où, en effet, toute la prison est basée sur cette séparation des sexes et du coup, sur une logique en tout cas très genrée. Donc en effet, les cantines sont aussi genrées. On a des produits déodorants pour hommes d'un côté, des produits déodorants pour femmes de l'autre, certains vêtements qui peuvent être portés d'un côté et d'autres pas. Et toutes ces questions-là, elles se posent aussi. Il y a certaines administrations pénitentiaires qui vont parfois, mais c'est très difficile de faire des généralités parce que ça change d'un établissement à un autre et en fonction parfois même des directions pénitentiaires ou la sensibilité des agents, comme Ludine l'a dit aussi, qui peut évoluer à travers le temps. Et dans certains établissements, on va accepter qu'une femme transgenre puisse porter une robe, mais que dans la cellule, s'il faut l'amener pour une visite, c'est pas possible parce qu'il va falloir lui faire traverser toute la prison. Dans un autre, moi j'ai vu aussi qu'elle avait le droit de porter une jupe ou une robe, mais par contre, quand les gardiens arrivaient et qu'ils ouvraient la porte, elle devait porter un costume d'homme, entre guillemets. On a aussi, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui ont fait des demandes spécifiques pour des déodorants ou ce genre de produits cosmétiques qui sont genrés ou qui ont une odeur, enfin je ne sais pas s'il y a une odeur masculine ou féminine, mais en tout cas qui sont de couleurs différentes, en tout cas. et dont ça a été refusé parce que ça ne fait pas partie de la cantine de base ou même ça ne peut pas être apporté. Mais il y a des sortes d'explications des fois qui sont un peu assez intéressantes et même peut-être surprenantes. Par exemple, quand vous allez avoir des proches qui vont amener des vêtements féminins dans un quartier pour Rome. Moi, j'ai rencontré certains gardiens qui disaient « Bah oui, bah, en fait, s'il y a une femme qui amène des culottes dans ce quartier pour hommes ou un string ou je ne sais quoi, en fait, c'est juste pour faire sentir ses culottes à elle, à la personne qui est incarcérée, sans pouvoir prendre en considération qu'éventuellement cette personne se considère comme femme et qu'elle va les porter du coup. Et c'est pas dans une optique qui est méga sexuelle. Mais oui, tous les produits sont clairement séparés. On parle aussi beaucoup en France de la division très importante qu'il y a dans les opportunités de travail ou d'activités culturelles et sportives qui sont souvent bien moins inférieures pour les femmes détenues ou très stéréotypées. En Suisse en particulier aussi, on a toujours une conception de la peine de prison qui est basée selon des préceptes assez religieux parfois et qui enfin on avait encore des sœurs en prison jusqu'à il y a pas très longtemps en Suisse, et l'une des activités qu'on propose l'une des professions qu'on propose aux femmes détenues pour se réinsérer, c'est l'activité de gouvernante par exemple, le fait d'être une bonne maîtresse de maison, parce qu'on imagine, enfin je sais pas, mais c'est par exemple expliqué par la directrice de l'établissement comme la vocation la plus probable et l'emploi qu'elles trouveront le plus facilement à leur sortie. Alors que pour les hommes, on va avoir des activités qui ne vont pas être juste des travaux manuels, mais aussi je sais pas, des cours de journalisme ou ce genre de choses qui ne vont pas être offerts aux femmes. Et du coup, l'affectation pour les personnes trans, les perspectives de travail va aussi dépendre de là où elles vont être placées. Et ça change en effet encore plus quand il y a l'existence d'un quartier spécifique où, dans certains cas, il n'y a même pas de possibilité de travailler, par exemple.
Alors, beaucoup de choses. sur la question des produits de cantine, par exemple, ça c'est un fait évident et avéré. Et par exemple, je reprends l'exemple du déodorant. C'est intéressant aussi parce que ça devient aussi des espaces de résistance. Donc, par exemple, à un moment, il y en a une qui me dit oui. Je leur demande un déodorant spécifique, il n'y est pas. En fait, le fait que ça sente la fleur, je m'en fiche. Je veux juste qu'on reconnaisse que je suis une femme et que j'ai besoin de quelque chose de particulier et qu'en fait, on ne prend pas en considération qui je suis. Et puis, il y en a une autre, par exemple, qui voulait faire rentrer... Il y a des moyens de dérogation pour faire rentrer du matériel spécifique. Donc, par exemple, elle m'a dit, je ferai la demande jusqu'à obtention pour avoir un épilateur. Et du coup, c'est intéressant parce que ça devient aussi les moyens de résistance qu'elle développe pour interpeller l'administration par rapport à la situation. Et c'est à la fois des démarches individuelles, mais aussi collectives, parce que, par exemple, sur la question du traitement, il y en a une qui a trouvé la voie pour que son traitement hormonal ne soit pas retardé tant que ça. Donc, en fait, elle a aidé les autres à écrire les lettres pour demander un rendez-vous avec la psy, parce que si on passait par la psy, c'était plus rapide que... Et voilà, donc c'est aussi tout ce qui se développe autour de tout ça pour elle-même avoir des stratégies de résistance par rapport au système qui les accable. Et même par rapport aux vêtements, en fait, la plupart... Enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des femmes trans qui sont incarcérées... sont dans une situation de pauvreté et font appel à... elles ont droit à une aide...
L'aide de 50 euros par mois.
Oui.
Je ne me souviens plus du nom.
Oui, voilà, l'aide d'indigence. Voilà, donc en fait, la plupart... Et par exemple, il y a certaines associations qui les aident, mais qui les aideraient, qui leur fait un versement mensuel. Mais en fait, elles se sont rendues compte que le versement mensuel n'est pas équivalent à l'aide à l'indigence. Mais si on leur verse trop, du coup, elles ne peuvent pas les aider. Mais en fait, elles sont aussi dans cette situation d'indigence parce que les liens familiaux sont souvent rompus. Et donc, il n'y a pas de gens... elles sont très peu à recevoir de la visite parce que soit les personnes habitent loin, parce qu'elles sont incarcérées beaucoup plus loin de leur domicile. Il y en a beaucoup aussi qui sont étrangères. Il y a beaucoup de situations de personnes qui arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle et qui sont directement envoyées parce que c'est des mules souvent. Donc beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique latine et beaucoup de personnes sur la question du travail du sexe. Donc en fait, leur entourage ne va pas non plus régulièrement leur rendre visite. Et en réalité, les visites pour elles sont vraiment très, très, très rares. Donc, c'est difficulté d'avoir accès à tous ces produits parce qu'un membre de la famille ou un proche ou une proche va les apporter. Et donc, en fait, pour les vêtements, c'est les vêtements donnés par l'établissement. Et c'est évidemment des vêtements considérés d'hommes. Donc, en fait, toute une stratégie de couture, de reprendre, de réajuster en fonction de leurs envies et de voilà. Et c'est plus ou moins accepté, alors non seulement selon les établissements, mais en fait même les surveillants. Il y en avait certaines qui me disaient, bon, bah, je sais que si lui est là, je peux mettre un t-shirt jusque-là, mais sinon, si c'est un autre surveillant, je vais m'habiller autrement. Et puis en fait, le fait d'être caché dans les déplacements, elle me disait, on se sent comme des animaux, comme des monstres, parce que dès qu'il y a un autre détenu qui passe et dès qu'on est amené à croiser un autre détenu, en fait, on nous isole, on nous cache. Il y en a une qui me racontait comment un surveillant a pris sa propre veste pour la cacher parce qu'il fallait absolument pas qu'elle soit vue. Et c'est comme si dans le discours de, elles me disent pour les surveillants, c'est comme si un détenu nous voyait et tout le bâtiment allait s'émoustiller, et comme si on était un objet de sexualisation permanente, en fait. Donc ça a des c'est fort.
Peut-être vous en parliez aussi un petit peu tantôt sur la thématique de la fouille, donc c'est-à-dire comment les personnes sont fouillées, par qui, comment est-ce que ça se passe, comment aussi est-ce que c'est vécu par les personnes. Je ne sais pas si toi tu veux commencer et puis ensuite Quentin pour échanger.
C'est un sujet qui revient très souvent aussi, et notamment en fait il y en a qui à certains moments refusent de sortir, même si elles ont des opportunités de sortir, juste parce que ce moment-là est trop violent pour elles, parce que le fait de se déshabiller vis-à-vis de plusieurs personnes, déjà c'est compliqué, et c'est compliqué pour l'ensemble des détenus, mais en fait elles font aussi souvent face à des moqueries, et puis il y a une pression qui est forte de la part des surveillants, puisque normalement en fait on est censé être fouillé par une personne du même genre. Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça n'a pas été le cas, et c'est toujours des hommes qui les ont fouillées. Et je crois qu'il y a quelques fois où il y a des adaptations. Au lieu d'être trois, ils sont deux. Il y a eu quelques adaptations, mais qui ne sont pas du tout suffisantes pour elles. Et oui, en fait, c'est un moment vraiment compliqué. Et effectivement, elles appréhendent souvent les moments de sortie à cause de ce passage-là.
Oui, en effet, la règle juridique, c'est le fait d'être fouillé par une personne du même sexe, du coup, que ce soit.
Peut-être juste une petite indication, quand on dit fouille, c'est pas juste être fouillé comme nous quand on est fouillé à l'aéroport, c'est vraiment une fouille à nu, donc avec voilà, cette importance qui est, en termes de dignité, etc., c'est quand même bien plus important et bien plus prégnant pour les personnes.
Et qui est assez systématique dans tous les déplacements, par exemple, pour aller faire une visite ou à la sortie de l'établissement, au tribunal ou etc. Et comme Ludine l'a dit, c'est une violence déjà pour la plupart des personnes détenues de devoir se mettre à nu devant un membre de l'administration, un membre qui représente le pénitentiaire en tout cas. Et on a des sortes de pratiques qui sont développées, qui sont bricolées, on va dire, parfois aussi dans certains établissements. Il y a parfois une fouille qui est faite en deux temps, donc ça veut dire qu'on va avoir, pour les femmes trans en tout cas, on va avoir une femme qui va faire le haut, le buste, avec la poitrine, et puis on va appeler un gardien, un homme, pour faire le bas avec le pénis. Donc c'est complètement inhumain et dégradant, juridiquement aussi. Mais c'est la solution qui a été trouvée aussi, parce que c'est une question qui est hyper compliquée à traiter, que ce soit pour les gardiennes de prison aussi, qui n'ont pas forcément envie d'être confrontées à un organe génital masculin lorsqu'elles font une fouille. Ça a jamais été, il n'y a pas encore eu de recours en droit sur cette question-là, mais ce serait intéressant de regarder comment ça serait traité, parce qu'en effet, il y a un peu deux visions qui s'affrontent et deux dignités qui s'affrontent aussi là-dessus. Il y a certains pays, par exemple, exemple aussi qui évacue cette question grâce au fait de faire des fouilles avec des scanners électroniques et non plus le fait de devoir palper les corps. Mais oui, c'est une question importante aussi en fonction... quand c'est perçu par le personnel, il y a dans un établissement en France, je ne sais plus si c'est Caen ou autre, mais il y avait des gardiennes qui avaient témoigné dans la presse qu'elles refuseraient catégoriquement à l'arrivée d'une femme transgenre dans leur établissement, ce qui avait été le cas, de procéder à la fouille corporelle entière, vu qu'il y avait des organes génitaux masculins en bas, et la directrice ou le directeur, je ne sais plus, de l'établissement, leur avait demandé de le faire, et je crois que la situation a été évacuée parce qu'on a ramené un gardien dans notre établissement pour faire la fouille finalement en bas. Mais oui, il n'y a pas de règles précises, ça change partout. Pour les hommes trans aussi, là il y a moins de problèmes pour les gardiens hommes, souvent selon leur conception, d'avoir face à eux un vagin, mais ça peut être plus dérangeant après pour les personnes qui vont être fouillées. Et dans d'autres établissements, moi j'ai rencontré des gardiens qui étaient plus, je sais pas si je vais dire ça, mais qui étaient plus, on va dire, sensibles et qui du coup faisaient moins des fouilles en profondeur pour éviter des moments un peu de gênance et qui allaient un peu gardé en express et on fouille à la va-vite, quoi.
Je crois qu'il y a une question qui m'est venue. En fait, par exemple, moi, j'ai entendu parler d'une surveillante qui s'était portée volontaire pour faire les fouilles et pour être au quartier spécifique. Il se trouve qu'en fait, du coup, là, c'est des questions structurelles à l'administration pénitentiaire, puisqu'en fait, dans ce quartier spécifique, il n'y avait pas de surveillante, il n'y avait que des surveillants, puisque c'était considéré comme un quartier de haute sécurité. Et donc, du coup, la répartition des agents et des agentes au sein des différents établissements en termes de genre et aussi stéréotypé sur certaines fonctions. Et bon, il y a tout un questionnement sur les relations entre les surveillants et les surveillantes et leur rôle au sein des établissements. Et je crois que ça a un impact en fait sur ces expériences. Et je pense que si par exemple il y avait des surveillantes au quartier spécifique se portant volontaire, puisque vraiment elle était volontaire, peut-être les relations aussi à ces sujets-là serait différent.
Et en Suisse, par exemple, dans trois cantons, on commence à changer un peu des règles pénitentiaires pour avoir une meilleure prise en charge des personnes transgenres incarcérées. Et la tendance serait plutôt à dire, si on doit réévaluer un peu notre droit pénitentiaire, de dire que les personnes trans pourraient choisir le genre de la personne qui les fouillera. Et c'est aussi ce que recommande le droit international, la soft law, en tout cas non obligatoire à ce sujet. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié.
La même chose d'ailleurs sur l'affectation. En fait, c'est aussi ce que dit le droit international, mais de manière effectivement très souple. Mais en tout cas, voilà, c'est d'aller plutôt vers ce que la personne souhaiterait.
Il y a un peu de conception en droit international, donc par rapport au... Il faut déjà se dire, je pense que toutes les règles de droit pénitentiaire qui ont été créées envers les droits des personnes détenues n'ont pas du tout été pensées, déjà, un, pour les femmes, et deux, pour les personnes trans. Par exemple, dans les règles de Bangkok qui sont spécifiques aux femmes détenues, vraiment, il a été fait le choix, dès le départ, d'évacuer les personnes trans parce que le spectre était trop large, sinon. Et on a voulu vraiment... Enfin, donc, ces règles-là ne sont pas applicables aux personnes trans selon leur conception historique. Et avec les différents instruments juridiques qu'on a à l'échelle internationale ou européenne, ce qui se dessine le plus aujourd'hui dans la soft law, c'est le fait d'affecter selon le genre à l'état civil. Et pour certains instruments ou organes qui sont un peu plus progressifs, ce serait l'autodétermination. On n'a pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder, un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui viendrait peut-être fixer, mais en tout cas, si elle devait se prononcer, elle dirait oui pour le placement sur la base du genre à l'état civil. Ça semble assez évident et elle condamnerait les États qui décident d'affecter différemment que sur cette base-là. Parce que normalement, quand on obtient une modification de son état civil, en fait, on obtient un genre qui doit être effectif dans tous les aspects de la vie, que ce soit aux assurances sociales, que ce soit la prison, que ce soit...
tant que citoyen, on est exactement reconnu comme...
Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une exception pour ceci. Par contre, l'autodétermination, je ne pense pas qu'elle irait jusque-là.
Non. Et ça, c'est aussi pour les États qui, déjà à l'origine, ne criminalisent pas des comportements ou une identité, etc. Il y a quand même un grand nombre d'États qui criminalisent et qui poursuivent même le simple fait d'être une personne trans ou d'être une personne homosexuelle, etc. C'est aussi nous ce qu'on voit beaucoup hein, dans nos différentes productions et dans beaucoup de pays où, en fait, quand on pose cette question tout simplement de, par exemple, comment les personnes trans en prison, comment ça se passe l'affectation, où est-ce qu'elles sont, directement, c'est les drapeaux en disant, mais alors nous, on n'a pas de personnes gays, on n'a pas de personnes trans, on n'a pas de personnes LGBT dans notre pays, ça n'existe pas, voilà. Et donc, il y a aussi cette question-là qui est quand même assez importante dans beaucoup de pays. Vas-y.
Juste par rapport à ça, en effet, il n'y a pas de criminalisation de l'homosexualité ou de la transidentité en France et en Suisse, mais du coup, en l'absence de recherches qui sont menées là-dessus à l'échelle nationale, c'est difficile pour nous d'évaluer de manière statistique les parcours des personnes transgenres incarcérées. Donc toi, tu l'as par rapport à Fleury-Mérogis et à ce quartier-là, mais surtout les territoires nationaux. C'est difficile de dire, en fait, pourquoi quelle est la surreprésentation, par exemple, des délits ou des crimes pour lesquels ces personnes là en prison. Moi, je suis un peu comme lui dit, personne, même si le travail du sexe est légal dans notre pays, il n'y a pas de criminalisation des clients non plus. On a un système réglementariste par rapport au travail du sexe. On a quand même, pendant la période du Covid où le travail du sexe a été interdit, eu des incarcérations de personnes transgenres parce que c'était interdit et que la police a usé de moyens assez déloyaux pour réussir à les arrêter. Donc en passant des coups de fil, en leur donnant des rendez-vous pour les retrouver dans la rue, et si elles se pointaient, c'était direction. L'arrestation provisoire directe. Et par ailleurs, à nouveau, il s'agissait principalement de femmes étrangères d'Amérique latine qui sont vues après demander de quitter aussi le territoire. Donc on a des profils qui semblent se dessiner un petit peu, mais je ne sais pas, on pourrait dire qu'il y a aussi peut-être, enfin moi je me permets de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des politiques criminelles qui conduisent aussi d'une certaine manière à une surreprésentation, enfin pas une... c'est difficile de parler dans nos contextes de surreprésentation de ces personnes-là en prison vu qu'on n'a pas de chiffres, mais en tout cas, selon les statistiques qui sont menées par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a une surreprésentation assez claire des personnes transgenres incarcérées.
Et d'ailleurs, même dans les pays où ce n'est pas criminalisé en tant que tel, alors pour la France, la Suisse, etc., aussi d'autres pays où pour le coup c'est clairement c'est su et c'est vraiment quelque chose sur lesquels les organisations de la société civile essaient de travailler, c'est vraiment le fait qu'on va poursuivre les personnes pour d'autres motifs, mais en fait la raison non affichée, on va dire, c'est clairement la criminalisation de leur identité, et parce que ce sont des personnes trans et parce qu'elles s'affichent comme telles, etc., on va les arrêter, mais sur complètement d'autres motifs. Et dans certains pays, c'est vraiment une action de plaidoyer qui est très forte et qui est menée...
Juste en une phrase, de toute façon, le contingent, un peu la population pénale, tout le monde le sait, ça reste quand même des personnes particulièrement précarisées. Nous, en Suisse, général. 70% de... 70% de personnes étrangères. En France, un peu moins, je crois, mais quand même au-delà de 50%, si je ne me trompe pas.
Pour la détention provisoire, oui. Par contre, pour la condamnation, c'est 26%.
Ok. Nous, on arrive à plus de 70% prévenues ou condamnées. Donc, c'est aussi qui sont les personnes qui sont représentées au sein de ces populations-là.
Je pense que c'est la question de la précarisation de toute façon, mais ce qui est important aussi, c'est de noter où en sont ces personnes-là dans leur parcours de vie et pourquoi et comment elles arrivent en France aussi, dans quelle situation et quelle situation elles fuient à certains moments de la discrimination, de la violence, et même s'il n'y a pas forcément de la criminalisation dans leur pays d'origine, mais il y a beaucoup de transféminicides, par exemple, quand j'étais à Fleury, il y avait une personne qui venait du Brésil, il y avait Bolsonaro qui venait de passer, qui était encore au gouvernement à ce moment-là, et elle disait je ne veux pas retourner au Brésil, je ne veux pas, je sais que je risque ma peau, vraiment, et évidemment sa peine a été assortie d'une obligation à quitter le territoire français, et même en fait elle est ressortie de la prison pour être reconduite au Brésil, donc en fait je pense que c'est ça aussi, c'est quels sont les parcours de vie qui les et quelle étape représente la prison dans leur vie aussi à ce moment-là.
Et peut-être avant de laisser tout un temps pour qu'il puisse y avoir des échanges voilà, avec la salle, entre guillemets, peut-être une question aussi pour revenir sur la question du silence. Comment aussi briser ce silence? Est-ce que vous identifiez, vous avez réfléchi à des manières de faire évoluer les perceptions, de faire évoluer l'administration pénitentiaire? Là, c'est une grande question, évidemment. Ça ne va pas être une réponse simple ou basique, mais voilà, sur comment désilencier, finalement, cette question de la transidentité en prison.
Alors, moi, j'irais même... Enfin, pas forcément désilencier la question de la transidentité en prison, mais en fait, voir un continuum de la violence et de l'enfermement, parce qu'en fait, cet enfermement, ce silence, c'est celui qu'elles vivent avant d'entrer en prison, pendant la prison, avec une stigmatisation particulière. Et en fait, ensuite, quand elles sortent, il n'y a même pas une préparation à la sortie qui est réelle et sérieuse et qui prend en compte... leur situation et clairement il y a des conflits dans les relations avec les conseillers de probation et d'insertion et de probation parce que ils continuent à les mégenrer et donc en fait à partir du moment où la personne qui est censée être responsable de ton accompagnement et ou en tout cas de t'accompagner dans la réalisation d'un projet pour la suite ne prend pas en compte les aspects spécifiques du parcours antérieur et de la suite. En fait, en réalité, il y en a beaucoup qui se retrouvent exactement dans la même situation, mais ça, je pense que c'est pas spécifique aux personnes trans, évidemment. Mais je pense que c'est la question de l'enfermement dans un genre, en fait, aussi, finalement. Et pas dans un genre, mais dans un système de genre binaire où, en fait, à partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance de leur identité pour trouver du travail, c'est compliqué aussi de penser à une sortie, malheureusement, dans un sens positif.
Moi, je rejoins complètement l'usine là-dessus. Et je trouve qu'il faut toujours un peu se poser la question de pourquoi certains... Bon, la visibilité pour les communautés LGBTIQ, de toute façon, elle n'est pas forcément bonne à prendre tout le temps. Moi, dans une approche purement abolitionniste aussi, j'ai très peur d'une potentielle réforme arc-en-ciel du milieu carcéral qui justifierait par exemple la création de prisons dites inclusives. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça ne saurait arriver. Par exemple, à Bruxelles, à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, on dresse les drapeaux arc-en-ciel sur les toits des prisons. Et c'est l'administration qui le fait d'elle-même. Et ce qui est très intéressant, par ailleurs, c'est que le drapeau est visible uniquement de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc c'est toujours un peu ça aussi. Oui, on peut créer des règles juridiques, on peut créer des politiques qui vont être un peu plus favorables, mais si elles servent au but de maintien de la prison, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment un impact sur le long terme et que ça soit forcément mieux sans prise en considération de qu'est-ce qui amène ou qu'est-ce qui place ces personnes-là en prison dans un premier temps. Et aussi, peut-être par rapport à ça aussi, aujourd'hui, le discours sur les personnes trans incarcérées se fait davantage par les groupes de féministes radicales qui sont vraiment opposés aux personnes trans et à leur existence, en fait, tout simplement, et qui sont rejointes par les groupes de droite ou d'extrême droite à ce sujet, et qui laissent place à, du coup, un discours quasi unique, par exemple, comme ça a été le cas il y a quelques mois, au moment de l'affaire Isla Bryson, une femme trans qui a été arrêtée et condamnée pour le viol commis pré-transition en Écosse, et la question de son affectation a bien entendu occupé la presse du Royaume-Uni, et d'ailleurs au-delà pendant plusieurs semaines, parce que tout le monde s'est révolté du fait qu'elle puisse être éventuellement placée avec d'autres femmes cisgenres, et du coup, par conséquent, les violer. Et je trouve que le débat s'est vraiment fait sur l'identité, transidentité comme criminalité, en gros, en associant ces deux mots comme si c'était des synonymes, et pas du tout sur la manière dont on a l'habitude d'affecter plutôt les agresseurs ou agresseuses sexuelles en prison, qui est une pratique d'affectation complètement toute différente par ailleurs. Donc il faut faire attention aussi aux récupérations politiques qui vont induire, parce qu'actuellement le discours est, sur ces questions-là est beaucoup mené en partie dans certains pays par ces groupes-là plutôt que par les associations LGBT mainstream, parce que les parcours de vie trans qui retrouvent la prison et qui sont pénalisés entre guillemets ne se retrouvent pas dans les idéaux LGBT dominants qui vont plutôt davantage vers un développement plus important du droit pénal, notamment avec je sais pas, le fait de reconnaître juridiquement l'interdiction des thérapies de conversion, nouvel article du droit pénal, et pareil pour l'interdiction de l'homophobie. Donc l'homonationalisme en tout cas ne sert pas les intérêts des personnes trans incarcérées.
Et peut-être pour ajouter un mot là-dessus, chez Prison Insider, on fait beaucoup de revues de presse, donc on lit aussi beaucoup d'articles. Et c'est vrai que s'agissant de la transidentité dans les trois langues, hein, d'ailleurs, tant en anglais qu'en espagnol ou qu'en français, ce qui revient beaucoup, c'est beaucoup cette question-là, et très souvent sous forme de scandale, de faits divers, etc., et qui ne vient pas donc poser en fait les questions de fond sur l'affectation, sur le respect des droits humains, sur la dignité des personnes détenues, mais vraiment plutôt s'arrêter, attention, cette femme trans risque de violer les autres femmes. Enfin, voilà, c'est dit crûment, mais c'est quand même très souvent ce qui est là, ou en tout cas dans le fond de l'article. Et
juste, je me permets de rajouter un truc par rapport à ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que c'est souvent ces groupes de féministes radicales par ailleurs qui font ceci dans le but de protéger les femmes détenues et qui se saisissent de ces questions vraiment dans le seul but de lutter en réalité contre les personnes trans et pas du tout d'aider les femmes cisgenres, parce qu'elles ne font rien pour les conditions de détention, les parcours de vie des femmes cisgenres. Elles ne vont pas au parloir leur parler, elles ne font rien en vue de leur réinsertion, elles ne dénoncent pas le fait qu'il y ait des femmes qui se suicident ou qui subissent des viols de la part du personnel en prison. Leur seule, elles utilisent plutôt ça comme un paravent et comme un outil à la défaveur des personnes trans et moins en faveur des personnes, des femmes cisgenres incarcérées qu'elles disent, entre guillemets, protégées.
Est-ce que un ou une de vous aurait une question ?
Moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que l'administration pénitentiaire a le même souci par rapport à son personnel ? Et la deuxième, que j'ai déjà oubliée, déjà la première.
Est-ce que tout le monde a entendu ou est-ce que vous souhaitez qu'on répète ? C'est bon ? Super.
La question serait dans le sens, par exemple, une personne trans qui serait membre de l'administration
pénitentiaire. Les salariés de l'administration pénitentiaire qui sont trans ou qui pourraient être embauchés, est-ce que l'administration refuse ?
Moi, personnellement, je n'ai jamais eu le cas d'un gardien ou d'une gardienne qui serait trans. Par contre, je sais qu'on a une gardienne, une femme trans qui est gardienne en Suisse, mais en Suisse alémanique, dans une prison. Mais si je le sais, à mon avis, c'est que ça a provoqué quelques échos à certains moments. Mais vu qu'on n'a pas cette règle de séparation des sexes en Suisse et que, aussi un peu comme en France, le personnel peut se retrouver mixte dans certains établissements, je ne pense pas que ça pose de questions là sous cet angle. Et je pense que la question des gardiens pose moins de problèmes que la question des personnes détenues, parce qu'il y a des politiques, par exemple, de diversité ou d'inclusion, des salariés, etc., plutôt que par rapport aux personnes transgenres incarcérées.
Sur la question des personnes transgenres, je ne sais pas. Après, je crois que c'est le FLAG qui a beaucoup d'actions auprès des surveillants. Et du coup, là, c'est plutôt sur la question de l'homosexualité et sur la question de la masculinité en général. Mais sur la question des personnes trans, je ne sais pas.
Non, mais est-ce que l'administration pénitentiaire est prête à embaucher ou est-ce que c'est un refus ?
Il n'y a pas d'interdiction, en tout cas, qui existe. Ça pourrait se rapprocher des discussions qu'il y a autour de l'armée, mais en tout cas en Suisse, par rapport à chez nous, le service militaire est obligatoire pour les hommes, en tout cas. Les hommes trans, du coup, les personnes qui transitionnent de femmes à hommes sont obligées de faire leur service militaire, alors qu'à la base, ce n'était pas censé être le cas. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a certaines personnes transgenres en Suisse qui attendent de faire leur transition après 18 ans pour éviter le service militaire obligatoire. Mais on n'est pas comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a par exemple des bans, ou je ne sais pas si ça existe encore actuellement, sur le fait que les personnes trans ne puissent pas faire partie de l'armée ou d'une administration sécuritaire parce que ça ne correspond pas aux intérêts ou à la force qu'il faudrait pour remplir cette mission-là de sécurité. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ces débats du côté du personnel.
Puis je pense qu'en France, ça serait considéré comme discriminatoire aussi et ça pourrait être attaqué ensuite parce qu'il n'y a aucune raison qui expliquerait cette différenciation. Mmh. En tout cas, juridiquement, à mon sens, ça se passerait comme ça.
La deuxième question, c'était les syndicats du personnel pénitentiaire. Est-ce qu'ils ont travaillé cette question-là ?
Peut-être que Ludit peut aussi dire, mais alors pour la France, moi j'ai accumulé beaucoup plus de pièces d'archives de syndicats qui sont, mais pas tous, parce que je sais qu'il y en a plusieurs en France aussi et qui n'ont pas du tout les mêmes ambitions politiques. Mais par exemple, je crois que c'est Chloé que Clémence a mentionné précédemment, quand elle était à Caen. Il y a eu un tract syndical en disant « Bienvenue à Canlywood, on a un monsieur madame qui vient d'arriver et on nous oblige à la considérer comme une femme ». Bon, c'était fin des années 90, mais ça donnait déjà une idée de... En mode, c'est le cirque, c'est les États-Unis, c'est Hollywood, machin. Et ça les embêtait. Et depuis, moi, j'ai pas revu quoi que ce soit par rapport à ça. Et il y a même... dans certains cadres pénitentiaires, dans certains établissements, les gardiens, enfin, c'est pas, on ne dit pas que tous les gardiens sont mauvais ou quoi que ce soit, même dans certains établissements, on a des gardiens qui demandent à être formés par des associations LGBT parce qu'ils veulent en savoir plus et savoir comment mieux faire au quotidien. À Lille, par exemple, c'est le cas, ils ont appelé des associations LGBT pour leur dire venez nous dire qu'est-ce qu'on doit dire comme mot, comment les appeler, etc., parce qu'on n'a pas envie de les vexer. Donc ça peut être dans les deux sens. Il y a des personnes qui vont être absolument transphobes, mais comme partout, et des personnes qui vont être plutôt très sensibles et qui vont vouloir bien faire les choses. Et par rapport aux directeurs d'établissements pénitentiaires aussi, les politiques d'affectation, elles varient beaucoup en fonction de leur sensibilité. Enfin, je sais qu'il y a une directrice d'établissement que je connais qui avait eu l'expérience d'une personne trans dans son entourage, qui s'est vraiment saisie de cette question-là avant même qu'une personne trans soit placée dans son établissement pénitentiaire. Mais en effet, il faudrait demander au syndicat ce qu'il pense là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas d'expression, en tout cas collective, sur ce sujet actuellement.
Non, je crois pas. Juste sur la question des formations, il y a des associations, par exemple, qui interviennent sur les journées de formation quand il y a une nouvelle garde qui arrive dans l'établissement. Et je sais que les personnes détenues le ressentent en fait quand les personnes ont été formées ou pas. Ça, elles ressentent une plus grande sensibilité et un meilleur accompagnement. Mais bon, je pense que c'est les sensibilités personnelles qui joue aussi.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été aussi beaucoup souligné par la CGLPL, enfin, dont on parlait au début, justement ce manque de formation qui était autant enfin, un frein pour toutes sortes de relations à l'intérieur de la détention et qui du coup avait appuyé et beaucoup recommandé la présence de formation et la proposition de telle formation pendant... pour améliorer, entre guillemets, la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ce qui était derrière, vous avez entendu la question ? Elle demandait, madame disait qu'on avait dit au départ qu'il y avait beaucoup de différences entre la situation des hommes trans et la situation des femmes trans. Elle demandait si on pouvait en dire un peu plus, enfin si vous pouviez en dire un peu plus.
Moi, je peux dire quelques mots par rapport aux politiques d'affectation sur lesquelles je me concentre particulièrement. Dans les visions des directions pénitentiaires, l'enjeu semble parfois moins important quand il s'agit d'un homme trans, donc on a toute la rhétorique autour de « oui, bon, c'est des femmes lesbiennes avec des cheveux courts qui sont un peu perdus », un peu comme ça, parfois. Mais dans d'autres établissements, il y a aussi cette idée que, bon, ça peut être moins grave parce qu'il n'y a pas le pénis. En tout cas, il y a eu des cas chez nous, des situations, entre guillemets, à Genève, qui ont posé très peu de problèmes lors de l'affectation d'hommes trans, mais qui ont été pris en charge vraiment de A à Z par un arsenal de médecins, de personnes de l'administration pénitentiaire, de psychologues, où tout le monde s'est retrouvé autour d'une table pour savoir où est-ce qu'on allait placer cette personne-là. Je crois qu'ils ont fini par lui demander aussi à un moment ce qu'elle souhaitait faire. Mais oui, on lui a permis d'être placée chez les hommes ou chez les femmes. La personne a dit « je préfère aller chez les femmes ». Il a été là-bas quelques temps dans une cellule où il a été très bien accueilli apparemment, selon ses dires. Et au final, il était là, bon ben, j'ai pas envie de rester avec trois femmes dans cette cellule, ça me saoule. On a obligé de dire aussi que les questions d'affectation sont toujours conditionnées par une surpopulation carcérale souvent importante aussi, qui vont parfois déterminer aussi le lieu d'affectation. Mais oui, il est retourné au final en cellule seul, je crois, au quartier des hommes. Mais il y a moins de situations dont moi j'ai eu connaissance qui étaient problématiques. Il y a eu une situation aussi dans un établissement pour mineurs à Genève, le Sol, donc je pense que je dois le nommer, la Clairière, où la personne était à 16 ans, je crois, un stade de transition très peu avancé, où il disait qu'il était un garçon, mais il n'y avait pas de modification chirurgicale ou sociale, peut-être avait été déjà été engagée, pas de modification de l'état civil, de toute façon, à cette période-là. C'était de quelques années. Hein. Et là, nous, la séparation des sexes est beaucoup moins impliquée en pratique aussi dans les établissements pour mineurs. Donc lui voulait jouer avec les garçons toute la journée, ce qui lui était permis. Mais par contre, pour le coucher, on le ramenait un peu dans l'aile ou en tout cas dans la partie de l'établissement où il y avait des filles. Je sais qu'il parlait beaucoup aux psychologues de l'établissement du fait qu'il souhaitait être davantage avec les garçons et mieux intégrés, mais eux aussi les rejetaient. Eux, les autres garçons qui le considéraient comme une fille, disaient non, tu peux pas jouer avec nous. Non. Donc, moi, j'ai peu d'autres choses à dire là-dessus, malheureusement.
Moi, j'ai entendu parler d'un cas, donc voilà, c'est un cas, une personne, mais c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de visibilité et je pense qu'il y a aussi une question qui est liée au parcours de vie. Qui sont différents et en fait si on reprend un peu faire une transition pour une femme trans c'est un déclassement social qui implique une rupture de vie et des ruptures avec les liens familiaux avec des soutiens beaucoup plus grandes et donc qui place beaucoup plus facilement dans des situations de précarité où le travail sexuel devient souvent une des seules opportunités. Bon, en plus là je parle beaucoup de gens qui sont du coup qui venaient d'Amérique latine donc qui se retrouvent dans cette rupture là et qui viennent en France chercher une autre opportunité, donc voilà c'est aussi le parcours dès le départ qui favorise ou non le fait qu'on se retrouve en prison, alors que faire un parcours de transition pour un homme trans c'est considéré plus comme une ascension sociale et donc il y a moins de ruptures avec les familles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas parce que évidemment il y a des difficultés aussi, mais disons que puis en plus il y a plein de choses qui jouent. Il y a l'âge de la transition, à quel moment on fait sa transition, et si par exemple on fait la transition à un moment où on a déjà fait des études par exemple, c'est beaucoup plus facile que quand on n'a pas fait d'études. Et par exemple clairement toutes les personnes que j'ai rencontrées en détention, il y en avait une seule qui avait un master et la plupart des autres avaient maximum le niveau bac, un CAP, voilà, c'est les parcours antérieurs presque à la prison qui font que il y a beaucoup plus de situations de femmes trans en détention que d'hommes trans.
Je peux te poser une question, Lune, oui. Par rapport au quartier spécifique de Fleury-Mérogis, que par exemple, il est dans le quartier de la maison d'arrêt pour hommes, uh-huh. Du coup il faut avoir un état civil masculin pour pouvoir y être. Est-ce que placer un homme trans avec un état civil féminin serait envisageable ou pas pour l'administration pénitentiaire ?
J'ai pas du tout posé, enfin je sais pas du tout si ce serait envisageable, mais en fait je dirais que non, puisque... Et il y a même... après, il y a la question de... c'est plus facile pour l'administration de négocier pour les hommes trans que pour les femmes trans. Mais là, clairement, il y avait une personne qui avait eu l'état civil féminin et qui était affectée à la maison d'arrêt des hommes.
Je crois qu'il y avait une question aussi un petit peu... Oui.
Vu comme risque d'accessoire est superficiel, qui n'est pas urgent, nécessaire, vital à la personne, ou si c'est pris en compte comme. Enfin voilà, c'est un.
Clairement, une dorsoplastie, c'est pas vu comme quelque chose d'absolument nécessaire par l'administration pénitentiaire, mais de toute façon, ça reste conditionné au mauvais accès aux soins dans la plupart des établissements. Donc, moi, c'est pas le cœur de ma recherche. Donc, à part ça, je sais pas trop ce que je peux dire en plus.
Moi, du coup, je voudrais plutôt parler de la situation des femmes. Effectivement, c'est pas considéré comme une priorité. Et de toute façon, il y a toujours une rupture au moment de leur arrivée, le temps que le traitement soit remis en place. Et même, j'ai du mal à saisir réellement quel est le processus, parce qu'en fait, au final, c'est un processus qui est individualisé quasiment à chaque fois. Et par exemple, une personne qui n'avait pas commencé le traitement au préalable, je crois, et qu'il le demandait, on lui a dit qu'elle devait être en période d'observation pendant 4 mois ou 6 mois pour voir si elle s'adaptait déjà au contexte carcéral, et en fonction de comment elle s'adaptait au contexte carcéral, on accéderait ou non à sa demande de lui fournir le traitement. Mais c'est là aussi que je disais, voilà, sur ce sujet-là, par exemple, c'est vraiment un sujet sur lequel elle se réunit et elle s'accompagne, parce que ça a des conséquences aussi sur la santé d'interrompre et de reprendre des traitements régulièrement.
Et puis, vas-y.
Il y a la question de la prise de traitement au sein de l'établissement, puis il y a la question de procéder à des opérations chirurgicales en dehors aussi, donc c'est beaucoup plus compliqué pour les sorties et pour les obtenir. Et il y a aussi, moi, dans quelques personnes que j'ai rencontrées qui voyaient parfois le moment de la prison comme un moment de pause, entre guillemets, qui pouvait être le bienvenu pour effectuer la prise d'hormones, par exemple, parce qu'en dehors du milieu social dans lequel elle était, et que du coup, il n'y avait pas toute cette modification physique qui allait être, entre guillemets, mise devant tout le monde, et qu'elle pouvait sortir un peu mieux et là-dessus. Voilà. Mais c'était une opinion d'une personne.
J'ai rencontré la même situation.
Okay. Et puis même plus généralement, Quentin le disait un petit peu, mais le problème de la continuité des soins, de toute façon, peu importe le soin, est déjà hyper problématique en prison sur des choses qui sont même pas polémiques quasiment. Enfin, je veux dire des traitements de diabète, aller chez le dentiste. Enfin, et alors même quand on sait que pour ces petites choses-là, qui pour le coup à l'extérieur ne posent même pas le moindre problème, on te demande pas d'aller voir un psychologue au préalable ou quoi que ce soit, c'est déjà compliqué. Alors là, évidemment, ça pose encore mille et une questions, et ça dépend aussi, et c'est le cas de beaucoup de choses, de la personne qui est là. Et comme beaucoup de droits en prison qui devraient juste être des droits, c'est très personno-dépendante. Enfin, en gros, voilà, la personne qui est là, elle va s'occuper de ça, elle va faire le traitement, elle va être à l'écoute. Et puis, la personne change, part, et tout à coup, tout change, quoi. C'est la même chose pour les traitements liés à l'addiction ou à des choses comme ça, et qui posent de gros problèmes en termes de respect des droits, parce qu'il n'y a aucune continuité de rien du tout. Qu'il y a une autre question, une remarque aussi, hein, ça peut être un ajout, un complément. Non ? Bah, je pense que. Est-ce que vous voulez chacun peut-être chacune faire un mot de conclusion ?
Oui, on est resté un peu dans une approche binaire, hein, de la prison en parlant des personnes trans, mais voilà, il y a aussi la question, bien entendu, des personnes qui se reconnaissent pas dans les genres masculins et féminins également. Il y a aussi la question qui se pose juridiquement avec potentiellement dans les années à venir l'ajout d'un troisième genre à l'état civil, voire la suppression du genre à l'état civil, ce qui est possible aussi, puisqu'il y a beaucoup qui argumentent que c'est pas une donnée importante pour l'État de connaître notre genre, entre guillemets, à raison. Nous, en Suisse, on a refusé il y a quelque temps l'ajout ou la suppression de la mention de genre à l'état civil. Mais par exemple, la question de la prison s'est posée dans ce cadre aussi. Et c'est des questions qu'il va falloir se poser assez vite pour les administrations pénitentiaires, de savoir il va falloir ajouter une troisième case et du coup des prisons spéciales pour ça, ou au contraire supprimer cette séparation des sexes. Et c'est mon sujet de recherche. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant de se demander comment l'administration pénitentiaire va s'adapter avec ces modifications qui, à mon avis, vont arriver dans quelques temps. Enfin, ça a déjà été accepté en Allemagne et dans d'autres pays à l'étranger, donc il n'y a pas de raison que ça passe la barre à un moment ou à un autre en France ou en Suisse. Et aussi, Moi, j'ai vu aussi une personne intersexe qui, elle, se décrivait comme hermaphrodite en prison. Et son affectation a été juste un casse-tête total pour l'administration pénitentiaire, parce qu'on ne savait pas où mettre cette personne qui avait des organes sexuels qui pouvaient être interprétés dans les deux cas aussi. Donc, même la question de cette binarité, elle est méga intéressante pour les conditions générales, l'organisation carcérale aussi, et notre manière d'envisager la peine et en particulier la peine privative de liberté.
Ouais, pour aller un peu dans le même sens, c'est la relation entre l'enfermement dans un lieu de privation de liberté qu'est la prison, et l'enfermement dans un système de genre binaire qui, pour ces personnes-là, semble se faire écho. Et c'est comme un jeu de miroir. À la fois, la prison renvoie à l'enfermement qu'on vit à l'extérieur et l'enfermement qu'on vit à l'extérieur une fois qu'on ressort, ou quand on fait le bilan, quand on est dans la prison, sur le parcours de vie, la sensation d'avoir déjà vécu cet enfermement par ailleurs. Donc c'est un peu ce jeu de miroir et un peu ce questionnement de... comment la prison traite le genre et comment le genre traite la prison, et cet aller-retour entre les deux. Et je sens qu'il y a vraiment une mise sous tension et presque un éclatement du système de genre à travers cette expérience vécue par les personnes trans.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour cet atelier. Pour vous dire, c'est une question qui revient quand même souvent. Donc, voilà, si c'est une question qui vous intéresse, enfin, qui revient souvent, pas assez souvent, mais en tout cas qui revient un petit peu, notamment la question de la mixité dont tu parlais un peu. À Prison Insider, on a aussi deux minutes de communication, mais on a un podcast depuis quelques mois et bientôt on aura un épisode qui sera dédié à cette question justement de la mixité, ce que ça pose pour l'administration pénitentiaire, les solutions, etc. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour bien sûr suivre cette sortie. Et puis si jamais vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas encore à nous les poser voilà, de manière plus individuelle. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Concertina.